Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Mel Emmanuel.
7 heures à Vitré, à Souba et Yaou, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, région du Sud-Comoué. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Lutte contre l'extrémisme violent, l'apport des femmes pour combattre le fléau expliqué au cours d'un atelier à Bouna. Sommet Chine-Afrique à Pékin, selon l'enseignant en économie Germain Cramaux, ce sommet augure un partenariat gagnant-gagnant. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 129 personnes ont été tuées dans une tentative d'évasion d'une prison en République démocratique du Congo. Aussi dans ce journal, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Ghislain Koulibaly. Et pour terminer, l'invité de la rédaction, l'expert en sécurité et professeur d'histoire, Arthur Banga, se prononcera sur le gel des avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Bonjour à toutes et à tous. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du renforcement de capacité des femmes sur les défis liés à l'extrémisme violent, le Centre de Recherche Politique d'Abidjan, CRPA, a organisé récemment à Odiéné un atelier de formation. Une initiative en faveur des femmes leaders dont nous parle ici Dr Flamoke César. Il est le directeur du CRPA.
En termes d'édification, des valeurs, on voit bien que la femme constitue le maillon essentiel. Le rôle que la femme joue ou peut jouer face à l'extrémisme violent réjaillit dans toute la société. Les femmes constituent pour nous, au Centre de Recherche Politique d'Abidjan, des vecteurs essentiels face à l'extrémisme violent et face à la radicalisation. C'est pourquoi nous saluons l'Agence américaine du développement international, USAID, et aussi DEI, qui finance le projet sur la thématique femmes, paix, stabilité et développement. Donc c'est dans le cadre de ce projet que nous sommes à Odiéné et nous avons eu à travailler avec une trentaine de femmes, leaders d'opinion. Il faut intérioriser le fait que le terrorisme ou encore l'extrémisme violent est la première menace à la sécurité des individus et des États aujourd'hui. Et les femmes qui constituent nos cibles dans le cadre de ce projet-là ont un rôle majeur à jouer. Nous savons la responsabilité qui incombe à la femme dans la famille et dans la société. Et donc, en renforçant leur résilience, nous concourons à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation.
Dr Flamoke César, directeur du Centre de Recherche Politique d'Abidjan, dans des propos recueillis par Bakary Touré-Labasse. Au centre du pays, l'ONG Aube Nouvelle a récemment appelé les populations de Diabo, dans la région de Gbeke, à la paix et à la cohésion sociale en période électorale. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation de la présidente régionale de cette ONG. Le point avec Joseph Assalé.
Depuis quelque temps, les élections constituent des moments de tension et de violence en Côte d'Ivoire. Toute chose que déplore le président de l'ONG Aube Nouvelle, Vincent Toby Irié, anciennement préfet d'Abidjan.
Il faut qu'on passe à un autre niveau en Côte d'Ivoire. Que chaque consultation politique ne soit pas l'opportunité de déchirement. Les plus grands drames en Côte d'Ivoire ne sont pas les inondations, ce ne sont pas les feux de forêt. Même Ebola, ça n'a pas fait autant de victimes. Ça n'a même pas fait un dixième des victimes que la Côte d'Ivoire connaît. La politique comme une arène de combat, de déchirement, de palabres, d'inimitié, des dissensions, on va continuer comme ça à traîner et puis à retarder le développement.
Fort de ce triste constat, il invite les populations de la localité de Diabo à emprunter le chemin de la paix et de la cohésion sociale.
Ce n'est plus la question de possession du pouvoir ou de conquête du pouvoir. C'est une question de penser à l'État. On dirige l'État. On cherche le pouvoir, c'est pour l'État. Donc c'est ce que nous voulons. Et vous, tout le monde a un rôle à jouer. C'est pas seulement le gouvernement, c'est pas que les partis politiques, mais c'est nous également. Si nous n'écoutons pas les messages de haine et de violence, il n'y aura pas de haine et de violence. Si nous ne sommes pas sensibles aux messages de division, il n'y aura pas de division. Donc c'est une responsabilité collective à laquelle nous appelons aujourd'hui et tout le monde doit s'y investir.
À Diabo, tous s'engagent à s'inscrire résolument dans la paix et le vivre ensemble, à en croire les propos recueillis.
Bientôt, il y a l'élection. Ce qu'il y ait la paix, ne pas concentrer des chiens entre nous. Vraiment, nous n'aimerons pas que cela arrive en Côte d'Ivoire parce que ce qu'on avait déjà vécu nous a laissé des séquelles.
Yéman Kwame Pascal, militaire à la retraite, celui qui a fait l'armée et qui a connu la guerre en fin de carrière, connaît la valeur de la paix.
Joseph Assalé, Diabo, Radio de la paix.
Renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique. Pékin, la capitale chinoise, accueille du 4 au 6 septembre prochain le Forum de coopération sino-africaine, le FOCAC. Une rencontre qui en est à sa 9e édition. Sur le point des relations entre la Chine, deuxième puissance économique mondiale, et les pays africains, écoutons Dr Germain Cramo. Il est enseignant en économie et chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques et sociales du CIRES CAPEC.
La Chine et les pays africains se rencontrent pour échanger sur le partenariat. On ne pourra pas dire que c'est un sommet de plus, parce que chaque sommet a ses particularités. Et vu que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, je pense que ce sommet a sa raison d'être.
Alors, que gagne la Chine à coopérer intensement avec l'Afrique?
Les statistiques commerciales l'indiquent déjà. La Chine gagne énormément. Et puis, la Chine a beaucoup de devises et de financements qu'elle souhaiterait rentabiliser au niveau international. Donc déjà, la Chine a besoin d'un marché où couler toute cette production de masse qui est faite. Et l'Afrique est un marché d'avenir avec ses milliards d'habitants.
Mais inversement, que gagnent les pays africains à se rapprocher un peu plus de la Chine?
Les pays africains gagnent énormément en termes de financement. Aujourd'hui, beaucoup de projets d'infrastructure sur le continent sont financés par la Chine. Et vous savez qu'aujourd'hui, les conditions financières sur le marché international se sont devenues un peu corsées. Donc, la Chine offre aujourd'hui les meilleurs moyens de financer les économies africaines à travers les investissements directs étrangers, les prêts et dons. Donc, aujourd'hui, les pays africains peuvent s'endetter auprès de la Chine pour pouvoir financer à des conditions plus ou moins souples qui favoriseraient ces pays-là à réaliser des infrastructures dont leur population a besoin.
Docteur Germain Cramo, enseignant en économie et chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques et sociales du CIRES, était en ligne avec Jean-Claude Comé. Revenons à Abidjan, précisément à Yopougon. Contrairement à d'autres communes, l'opération menée par le district autonome d'Abidjan s'est déroulée sans incident. Cependant, certains habitants expriment des préoccupations concernant le non-respect de la distance annoncée. Christelle Yesso.
Les différentes artères de la commune de Yopougon, depuis l'autoroute jusqu'à Jesco, ont toutes été déguerpies. Une opération réussie grâce à la participation de la population, explique le directeur de cabinet du gouverneur du district, Abou Oscar.
Ça se passe bien à Jesco. Nous sommes avec les populations. Nous avons fait le tracé ensemble. En tout cas, les populations, nous avons travaillé pour marquer d'abord les différents sites qui devaient être libérés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser.
C'est Bois Bigoré, président du comité de gestion du quartier Jesco, qui s'est chargé de la mission de sensibilisation des habitants.
On a été informé depuis le mois de février, je crois bien. C'est-à-dire que la rivière jusqu'à au kilomètre 17 allait déguerpir. Depuis vendredi, on a commencé la sensibilisation. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu de mouvement pour affronter le district d'Abidjan.
Malgré le calme apparent, les populations se plaignent du non-respect de la distance annoncée.
Sanogo Pisana. On dit dimanche, ils vont prendre 50 mètres. Moi, je n'ai pas dans les 50 mètres. Si j'étais dans les 50 mètres, il y a longtemps, j'ai cherché une maison pour aller ailleurs.
Marguerite, on nous a dit que pour nous, on ne peut pas casser. On est resté après, la machine est venue, il a cassé devant nous comme ça.
La phase de déguerpissement terminée débutera maintenant la phase de recensement, rassure le président du quartier.
Le DICAB et puis les collaborateurs du DICAB ont dit qu'on peut toujours continuer à recenser. Surtout que nous sommes les recenseurs du quartier, on connaît à peu près quels sont ceux qui habitent ici. Et on a prévu qu'à partir de demain, on va commencer le recensement.
Les quartiers de la commune de Yopougon ont été touchés par ces déguerpissements qui ont pour but d'embellir la ville d'Abidjan.
Restons à Yopougon. Zéro accident de la route en cette période de rentrée scolaire. C'est le thème de la 20e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, organisée par l'Office de sécurité routière, OSER. Le lancement officiel a eu lieu hier à Abidjan, à la mairie de Yopougon, en présence du premier adjoint représentant le maire, Adama Bitogo. Junior Cardin y était.
La période de la rentrée scolaire mérite beaucoup d'attention chez les conducteurs et les usagers de la route, au dire du directeur général de l'OSER, Office de sécurité routière, Étienne Kouakou, à ce lancement.
Nous pensons que les messages ont été bien compris. Nous voudrions donc souhaiter une très bonne rentrée scolaire à l'ensemble des élèves et étudiants et surtout beaucoup de prudence à nos conducteurs routiers pour que le thème zéro accident en cette période de rentrée soit une réalité. Parce qu'on l'a dit, 95% des accidents sont du fait de l'homme.
Dans le compartiment conducteur conducteurs comme dans le compartiment patron, nous devons nous approprier tout ce qui est dit par l'OSER. C'est le souhait du directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim.
Pour que sur nos routes, les dispositions puissent être prises par nos conducteurs et par nos transporteurs pour que la question de la maîtrise de la sécurité routière, l'environnement dans lequel nous travaillons, en tenant compte de la position mécanique du véhicule, de l'état mental même du conducteur, nous puissions être en même d'assurer ce travail en préservant les vies humaines.
Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, a pris un engagement devant les nombreuses interpellations qui visent sa corporation.
Nous avons chargé déjà tous nos chefs de ligne à regarder le comportement des conducteurs avant tout départ. Quand on voit quelqu'un qui a les yeux trop rouges, on sait ce qu'il a pris. Quand on voit quelqu'un qui dandine, il n'a pas le droit de prendre le volant. Quand on dit le facteur humain reprend 95%, c'est une réalité. Mais il y a aussi le facteur du stress que les forces de défense de sécurité mettent sur nos conducteurs sur les routes. Le racket était parti, mais il est revenu.
Notons que sur les 10 communes d'Abidjan, Abobo, Yopougon et Cocody cumulent à L3 plus de 50% et de tués sur les routes.
Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle, dans une tentative d'évasion au contour encore flou, survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, selon un bilan officiel annoncé mardi. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans une déclaration vidéo enregistrée et transmise à la presse. Le ministre de l'Intérieur a également fait état de 59 blessés pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Retour à nouveau en Côte d'Ivoire, en studio avec Ghislain Koulibaly pour la revue des titres de la presse ivoirienne. Bonjour Ghislain.
Bonjour Mel, bonjour à toutes et à tous.
Après un long séjour hors du pays, Tidjane Thiam est de retour.
Oui, le président du PDCI RDA est de retour en Côte d'Ivoire et dès son arrivée, il s'est adressé à ses militants. Mais une partie de son discours suscite des interprétations variées dans la presse ce matin. Le Jour Plus s'empare de cette expression. Le président du PDCI refuse de mettre le serpent dans son pantalon. Le journal tente d'expliquer cette image et souligne qu'à 14 mois des élections, Thiam calme les ardeurs des va-t-en-guerre en déclarant « Je refuse de coopérer avec les tenants de la violence ». Du côté de l'avenir, c'est le rififi au sein de l'opposition qui est mis en lumière. Thiam attaque Soro et le PPACI, nous dit le journal. Une vision partagée par l'Essor ivoirien qui titre « L'opposition ivoirienne vole en éclats ». Même tonalité chez Soir Info qui indique une polémique autour de ce discours. Alors, que faut-il vraiment retenir de la sortie de cette sortie de Tidjane Thiam? Le nouveau réveil tranche avec audace. Thiam a parlé que ceux qui se sentent morveux se mouchent. L'héritage, quant à lui, se penche plutôt sur l'agenda du président du PDCI RDA marqué par une vaste tournée de mobilisation.
Tournons à présent le regard vers la Chine.
Oui, et en Chine, le vice-président ivoirien s'y trouve en ce moment. Il est en mission dans ce pays à l'occasion du 9e sommet Chine-Afrique. Le mandat met en lumière cet événement en titrant Tiemoko Meilé en Chine depuis hier. Les discussions porteront notamment sur la sécurité, la santé et la relance économique. Le Patriote précise que le vice-président participera activement aux travaux de ce forum, tandis que Fraternité Matin affiche en une sommet Chine-Afrique, Tiemoko Meilé Kone et des chefs d'État à Beijing. Enfin, Mel, restons avec Fraternité Matin qui rend hommage aux anciens combattants ivoiriens avec un dossier touchant intitulé « Ils ont fait la guerre en France, en Italie, en Indochine, quand les tirailleurs ivoiriens se racontent ».
Merci Ghislain, c'était la revue des titres de la presse ivoirienne à retrouver dans le journal de 8 heures. Au terme de ce journal, l'invité de la rédaction. Il est expert en sécurité et professeur d'histoire à l'université félicite de la vigilance des sécurocrates ivoiriens qui permet de geler actuellement les avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Professeur Arthur Banga est en entretien avec Francis Cassi.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire vient d'annoncer avoir gelé des avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Est-ce que vous êtes au courant?
Oui, l'État a communiqué officiellement, le parquet a communiqué officiellement sur sa décision de geler des avoirs. Parce que faut comprendre que le terrorisme, c'est aussi le financement du terrorisme. Ce n'est pas que les gens mènent des actions pour qu'ils recrutent, il faut de l'argent. Et donc le rôle de l'État aussi, les enquêtes regardent aussi cet aspect financier, ces flux financiers qui peuvent approvisionner les circuits ou les fonds des groupes terroristes. C'est dans ce cadre là que la Côte d'Ivoire, après enquête, a décidé de saisir 29 comptes.
Donc les comptes qui sont gelés, les personnes sont aussi en prison?
Non, pour l'instant, c'est les comptes qui sont gelés. De toute façon, la justice a communiqué si le compte est gelé. Naturellement, si les comptes sont gelés, c'est qu'il y a au moins de fortes suspicions. Et donc, la justice va continuer son travail. Mais si on vous gèle des comptes, c'est qu'on est d'accord que vous avez un lien avec les groupes terroristes. La justice va poursuivre son travail.
Mais comment est-ce que l'État a pu savoir que ces personnes-là ont un lien avec le terrorisme?
Ouais, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur toute action des groupes terroristes. Quand on capture des terroristes qui écoutent des conversations, qui suivaient aussi des flux financiers, qui suivaient le blanchiment d'argent, et donc tout ça permet à l'État d'avoir dans une certaine mesure l'idée de l'activité sur certains comptes.
Quels sont les profils de ces personnes-là?
On trouve de tout. Les financements du terrorisme, ils concernent tout le monde. Vous pouvez avoir des hommes d'affaires qui, par leurs affaires, facilitent le blanchiment d'argent. Vous pouvez avoir même des religieux qui, sous le couvert de leur religion, financent les terroristes. Vous pouvez avoir même des ONG.
Mais vous, en tant qu'expert, quand vous avez appris ça, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce à dire que la menace terroriste est réelle contre la Côte d'Ivoire?
La menace a toujours été réelle contre la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'attaque d'ampleur qu'on va considérer que la menace est derrière nous. Non, la Côte d'Ivoire est toujours dans le deuil du cyclone. Elle est toujours surveillée et enviée par les groupes terroristes.
Maintenant que des avoirs de certaines personnes sont gelés, comment est-ce que la décision se fait?
C'est une décision de justice. Après des enquêtes, le parquet national financier ou le parquet de lutte contre le terrorisme va essayer de trouver, à partir des preuves qu'ils vont rassembler, ils vont maintenant décider de geler des comptes. C'est une décision de justice suite à des enquêtes qui vont mobiliser des renseignements et tout ça pour permettre de voir que des comptes sont suspects ou des comptes ont alimenté les activités terroristes.
Mais est-ce que dans ce cadre-là, il n'y aurait pas simplement des dénonciations calomnieuses? Peut-être quelqu'un a une dent noire contre un autre et puis bon, il va en profiter aussi pour faire une dénonciation.
Il y a un travail d'enquête. Ce n'est pas parce que vous déclarez que quelqu'un a financé le terrorisme, c'est pas parce que vous dites le nom de quelqu'un dans une affaire qu'il est coupable. Dans un état de droit, c'est cela. Voilà. Et donc, il faut conserver la présomption d'innocence des gens jusqu'à ce que la justice prenne une décision. Là, on en parle parce que c'est une décision de justice. Mais la présomption d'innocence, c'est le fondement du droit. Ce n'est pas parce que vous êtes accusé ou vous êtes suspecté que vous êtes coupable.
Alors, les effets d'une telle décision sur la population, quand la population a appris que il y a des personnes en lien avec le terrorisme dont les avoirs ont été gelés, quel effet ça fait?
Ça montre d'abord du côté positif que l'État prend au sérieux cette question, que les enquêtes se mêlent, que le renseignement travaille, que la justice est mobilisée. Maintenant, l'envers du décor, c'est que nous sommes toujours sous la menace et il faut qu'on garde une certaine vigilance.
Dans ce cas, vous, en tant qu'expert, quel conseil vous donnez aux citoyens lambda que nous sommes?
De collaborer avec la police, de ne pas hésiter une seule fois à signaler quand il y a des mouvements suspects ou quand ils font une activité économique suspecte ou quand ils font qu'il peut y avoir du blanchiment d'argent. Il faut toujours collaborer avec les autorités qui seront à même, comme dans ce cas-là, de poursuivre les enquêtes.
Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit qu'il se cacherait aussi des religieux, des personnes d'ONG parmi ces présumés terroristes dont on se méfie. Alors, comment est-ce que des gens qui disent parler de la part de Dieu et aussi qui disent œuvrer pour le social peuvent et puis comme ça changer en faveur d'un tel phénomène aussi sinistre que le terrorisme?
Non, parce que la stratégie des groupes terroristes, c'est pas que de l'attaque. L'attaque, vous voyez, c'est la fin du processus. Il y a un processus de séduction, il y a un processus d'adhésion. On peut adhérer à une cause religieuse en ayant une certaine lecture de la Bible, du Coran ou de n'importe quel livre saint que vous emmenez à vous radicaliser. La deuxième chose, c'est que vous, socialement, vous pouvez voir qu'une ONG liée à tel groupe réussit à apporter des réponses sociales dans votre environnement que l'État n'arrive pas à faire. Et donc tout ça permet au groupe terroriste de prendre pied et d'utiliser ces moyens-là pour séduire et pour s'implanter.
Alors comment un tel phénomène, le terrorisme, a pu, je vais dire, conquérir le monde? On parle un peu partout de terrorisme. Pourquoi?
C'est aussi vieux que le monde, j'ai envie de dire. Le terrorisme a utilisé la peur pour imposer ses idées. Ça a été même fois fait. Voilà, aujourd'hui, ça prend une nouvelle ampleur parce que il y a une sorte de mondialisation aussi des groupes terroristes et parce que dans certains pays, il y a des facteurs qui vont le favoriser. Ça peut être des facteurs sociaux, la pauvreté, les tensions entre différentes composantes de la société. Ça peut être aussi une vraie perception, une vraie conviction de la religion.
Alors, vous avez dit qu'on utilise la peur pour vouloir imposer ses idées. Mais pourquoi ne pas utiliser les arguments, les débats pour...
Parce que chacun choisit ses moyens.
Mais avec le terrorisme, le monde est vraiment en danger.
Bien sûr, nous sommes en danger. Après, il y a plusieurs de nos États qui sont aujourd'hui quasiment déliquescents. Ce qui se passe dans le Sahel, Ça s'explique en grande partie par cet extrémisme violent qui a désagrégé les États, qui a affaibli le pouvoir des dirigeants élus et qui a donné des prétextes à des putschistes.
Professeur Arthur Banga, je vous remercie.
Merci.
Le professeur Arthur Banga était l'invité de la rédaction, rappelant qu'il est expert en sécurité et professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous voici arrivés au rappel des titres de ce journal. Lutte contre l'extrémisme violent, l'apport des femmes pour combattre le fléau expliqué au cours d'un atelier à Bouna. Et hors de la Côte d'Ivoire, au moins 129 personnes ont été tuées dans une tentative d'évasion d'une prison en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, retrouvons-nous à 8h pour un autre point de l'actualité.